Radio Kapi.
Cette rencontre hier à Bujumbura, des ministres des Affaires étrangères des pays signataires de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région des Grands Lacs, c'est en prélude du sommet de mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. La vente du maïs ne s'est jamais arrêtée. Elle va se poursuivre dans les camps militaires et policiers à Kinshasa et les cantines seront bientôt renforcées avec d'autres vivres. Précision du commandant du service national devant la presse hier à Kinshasa, c'était à l'issue de sa tournée d'inspection dans ces camps. Madame, Messieurs, bonjour. Les ministres des Affaires étrangères des pays signataires de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs se sont réunis hier à Bujumbura, la capitale du Burundi. Cette rencontre se tient en prélude du sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Plusieurs allocutions ont été prononcées successivement par les représentants de la CIRGL, de la SADC, de l'Union africaine, de l'ONU ainsi que de la RDC et du Burundi. Pour plus de précisions, rejoignons Fiston Ngoma, notre envoyé spécial à Bujumbura.
Après l'adoption de l'ordre du jour, les représentants des pays signataires sont passés à l'examen des principales évolutions politiques et sécuritaires, y compris l'état des lieux des processus régionaux de paix. Les ministres et chefs de délégation ont examiné ensuite les projets de feuille de route pour la revitalisation de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région. D'autres points ont porté sur l'état des lieux des initiatives pour la mise en œuvre des décisions de la 10e région de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre. Les activités en soutien de l'agenda femmes, jeunes, paix et sécurité des différents forats régionaux ont été passées au peigne fin au cours de cette réunion dont la RDC est représentée par le ministre de la coopération régionale Antipas Mbusa Nyamwisi. On pouvait observer à côté de lui Serge Tshibangu et Claude Ibalanki. Après les travaux à huis clos et la pause, les travaux se sont poursuivis sur plusieurs autres points, dont la coopération sécuritaire sur les activités du groupe de contact et de coordination et les actions en soutien à la gestion responsable des ressources naturelles de la CIRGL. Signalons qu'avec ces assises de Bujumbura, le Burundi assume désormais la présidence du mécanisme régional pour une année après la RDC. Depuis Bujumbura, Fiston Ngoma Mayaba, la Radio Kapi.
Prenant la parole au nom du président Félix-Antoine Tshisekedi, le ministre d'État à l'intégration régionale, Antipas Mbusa Nyamwisi, est revenu sur les clauses intangibles et opposables à tous que contient l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est entre autres la non-ingérence dans les affaires intérieures des États voisins, n'est pas tolérer ni fournir une assistance ou un soutien quelconque à des groupes armés, respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États voisins. De ce fait, Antipas Mbusa Nyamwisi a martelé le fait que la RDC n'a nullement d'ambition belliciste et tient à maintenir un climat de convivialité avec tous les pays d'origine des groupes armés qui écument l'est du pays et appelle à la revitalisation de cet accord cadre. On écoute Mbusa Nyamwisi dans cet extrait proposé par Jacques-Yves Molima.
La RDC demeure attachée à l'esprit et à la lettre de l'accord cadre et soutient toutes les initiatives de sa revitalisation qui appellent une évaluation sans complaisance, franche et sincère. Car, comment devrait-on comprendre que ce soit exactement le moment où la RDC assume la présidence tournante de cet accord, qu'elle soit injustement agressée par un État membre, bien identifié, violant l'engagement régional numéro 3, avec un motif fallacieux de révisionnisme du principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, principe fondateur de notre organisation continentale, l'Union africaine. Il est important de noter que malgré le contexte particulier marqué par la recrudescence de la guerre provoquée par le M23, soutenue par nos voisins du Rwanda, la RDC attend maintenir le contact avec les pays d'origine de ces groupes armés et amplifier la campagne de sensibilisation à leur direction afin de trouver une solution définitive à cette question. Ces pays, à l'occurrence le Rwanda, pays d'origine de FDLR, le Burundi, pays d'origine de Red Tabara, et enfin l'Ouganda, pays d'origine des ADF-MTN, doivent, à travers le groupe de contact, tendre la main à ces groupes armés dans le cadre des processus DDR régional.
Par ailleurs, 10 ans de la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région, malgré l'espoir suscité, les promesses sont loin d'être tenues, écrit le prix Nobel Denis Mukwege. Dans un tweet, le prix Nobel de la paix ajoute, je cite, « La RDC a failli à son engagement à mener des actions concrètes pour entamer une profonde réforme du secteur de la sécurité, incluant l'assainissement de la police, de l'armée et des services de renseignement, institutions qui demeurent infiltrées à tous les niveaux suite aux accords précédents ayant intégré, en vertu du principe d'inclusivité, des éléments des groupes armés rebelles, congolais et étrangers dans les institutions de la République. » Fin de citation. Entre-temps, au Nord Kivu, le commandant de la 34e région militaire appelle ses hommes de troupes à résister contre toute éventuelle attaque pouvant cibler la ville de Goma. Le général-major Bruno Mpezo Mbele l'a dit lors d'une parade militaire mercredi au quartier général de la 34e région militaire à Goma. Il encourage la bravoure des militaires de sa juridiction lors des dernières attaques de Sake, qui selon lui a valu à la région militaire les remerciements des autorités du pays. Il leur demande ainsi de continuer sous lancé. Le général-major Bruno Mpezo Mbele dans ses propos recueillis par la presse de la 34e région militaire.
Le gouverneur, le chef des opérations ici au Nord Kivu, m'a instruit de vous dire ceci. Toutes les autorités du pays, depuis le commandant suprême, nous remercient pour tout ce que nous faisons ici. Je crois que vous le savez, les années passées, il suffisait seulement que l'ennemi atteigne Kibumba pour voir tous les militaires en fuite. Mais cette fois-ci, vous avez montré une différence, que vous mourrez pour le pays. L'ennemi est arrivé jusque dans les environs ici. Ils vous ont encerclé jusqu'à couper toutes les issues. Aucun de vous n'a fui, n'est-ce pas? C'est pour cela que les autorités vous encouragent, vous démontrent que vous êtes vraiment des militaires. Ici, dans cette ville de Goma, ce n'est plus comme avant. S'il faut nous affronter, nous allons nous affronter. Personne ne peut nous intimider. Nous l'avons bien dit. Nous sommes prêts à mourir pour la nation. Un militaire ne fuit pas devant l'ennemi. Même si c'est le dernier, jamais nous ne quitterons ou abandonnerons la ville de Goma.
Province de la Tchopo, les voix s'élèvent pour exiger l'implication des autorités, de l'élite provinciale ainsi que des chefs traditionnels pour résoudre le conflit intercommunautaire Mbole-Lengola. La dernière en date est celle des fils et filles nés des parents Mbole-Lengola. Elle condamne avec la dernière énergie les deux parties en conflit pour des actes de barbarie qui endeuillent inutilement la province. Ces voix redoutent que les ennemis de la paix ne puissent jouer à la manipulation pour aggraver la situation. Elles demandent au gouvernement d'agir très vite et en même temps exhortent leurs parents à fumer le calumet de la paix car ces familles sont contraintes de vivre ensemble. Leur représentant, maître Patrice Thomas Akala, avocat au barreau de la Tchopo, a été joint hier au téléphone par Jacques Moukonkolé.
Ces morts de trop devaient être évitées depuis longtemps. C'est une situation qui date d'au-delà 6 mois. Il y a eu des alertes de partout. En ces jours, qu'on arrive à ces niveaux, c'est dur que demain, ça reste encore très fou si toutes les autorités ne s'impliquent pas. Les autorités locales, provinciales, nationales ne s'impliquent pas. Nous risquons encore de vivre les mêmes situations que nous déplorons en ces jours. Pour Beni, Ituri et partout en République démocratique du Congo. Parce que si l'ennemi s'invite à la situation sécuritaire de ces jours, de la ville de Kisangani et de la commune de Lubunga et communautairement, c'est le pire qui va arriver. C'est déplorable. Nous invitons vraiment mes oncles Lengola et mes frères Mbole pour la paix. Privilégions la paix parce que nous sommes obligés de vivre ensemble pour que nous ne puissions pas ouvrir la porte aux ennemis de la paix qui peuvent prendre la situation et politiser cette situation qui va encore nous en deux, parce que c'est nous qui vont perdre le frère, qui vont perdre nos soeurs, les victimes de cette situation.
À Kinshasa, la vente du maïs se poursuit dans les camps militaires et policiers et elle ne s'est jamais arrêtée depuis septembre 2021. C'est ce qu'a affirmé hier à Kinshasa devant la presse le commandant du service national à l'issue de sa tournée d'inspection dans ces camps. Le général-major Kasongo Kabwik a précisé que malgré la pénurie du maïs sur le marché qui a fait que le prix d'un sac de 25 kg est doublé, voire triplé, les militaires et policiers achètent toujours un sac au tarif social de 18 000 francs congolais. Il a ajouter que sur instruction du président de la République, commandant suprême des FARDC et de la police, cette vente va se poursuivre et les cantines seront bientôt renforcées avec d'autres vivres, notamment les vivres frais. On écoute le général-major Kasongo Kabwik au micro de Alain Rungmushinj.
Vous et moi, nous le constatons depuis que les cantines militaires ont été ouvertes en 2021 par le commandant suprême, chef de l'État. Elles sont opérationnelles chaque mois dans la ville garnison de Kinshasa ou la cantine au camp Tchatch, la cantine au camp Kokolo, la cantine au camp Lfungula, la cantine au camp Kabila, la cantine au camp Seta, la cantine au camp Badiadingi sont toutes opérationnelles. Et qu'aujourd'hui, pour moi, c'était juste pas une visite ordinaire, donc une visite d'inspection, pour m'assurer que celle-ci fonctionne normalement à la grande satisfaction des bénéficiaires, mais pour me permettre aussi de faire rapport à la haute hiérarchie, donc au commandant suprême, qui tient à sec, en dépit de la flambée de prix de la farine de maïs sur l'ensemble du territoire national, que les militaires, les policiers ainsi que leurs dépendants bénéficient de cette denrée qui est produite au service national au même prix qu'il avait indiqué lors du lancement des cantines dans les camps militaires, c'est-à-dire 18 000 francs congolais pour un sac de 25 kilos, pendant que dans les supermarchés à Kinshasa et dans d'autres coins du pays, le prix va jusqu'à 52 dollars.
Dans l'actualité, sachez aussi que l'inspection générale des finances vient de bloquer toute opération de sortie des fonds sur tous les comptes bancaires par le gouverneur de province et le gouvernement provincial du Kasaï oriental. Dans une correspondance adressée le mercredi au directeur général de six banques, l'IGF indique que cette mesure conservatoire ne porte que sur les opérations en débit. Contacté, le gouverneur du Kasaï oriental promet de réagir ultérieurement. Explication Esther Dalafina.
La décision de l'IGF est contenue dans une correspondance de mercredi adressée aux directeurs généraux des six banques ayant des succursales en Boujimaï. Il s'agit de BGFI Bank, Equity BCDC, FBN Bank, Trust Merchant Bank, TMB et Kadeco. Sans donner les motivations, l'IGF insiste cependant que cette mesure conservatoire ne porte que sur les opérations en débit. Elle ne concerne pas les comptes de l'Assemblée provinciale ni celle de la Direction générale des recettes DGRK Or. Pour l'IGF, cette saisie des comptes ne peut être levée que par une autre correspondance de ses services publics. Contacté, le gouverneur de province promet de réagir dans les heures qui viennent. Esther Dalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
À Beni, l'école primaire Vingazi, une école conventionnée protestante, éprouve des difficultés pour fonctionner. À la base, la destruction de 11 salles de classe par la pluie. Le responsable de cette école dit ne pas être en mesure de trouver une solution à cette situation du fait de la gratuité de l'enseignement. Il lance un SOS aux organisations humanitaires pour venir en aide à ses élèves qui étudient dans des conditions déplorables. Guylaine Kassassi a été sur terrain. Voici son reportage.
Ce sont au total 11 salles de classe sur les 18 que compte cette école qui sont touchées par cette catastrophe. 8 d'entre elles ont été emportées par les eaux de pluie. Il s'agit de salles situées le long de la rivière Biaoutou. Tableaux, pupitres, murs et autres fournitures scolaires, tout a été emporté par les eaux de la forte pluie qui s'est abattue sur la ville la nuit du 28 au 29 avril dernier. Sur place, la rivière crée même un passage dans les salles de classe de la troisième année A et B. Pour l'instant, plus de 800 écoliers sur les 1000 200 de cette école manquent ou suivent les cours. Certains se rendent à l'EPA Beni qui se situe à 1,5 km de là. Milka Katungu Kihuko, directrice de l'EPA Vingazi.
La situation actuelle de mon école est très catastrophique. À partir de la pluie du vendredi soir, le matin, nous sommes arrivés car les pupitres, les classes, tout était déjà emporté. Il n'y avait que certains murs qui pouvaient peu soutenir, mais les autres étaient déjà emportés par l'eau de pluie. C'est 11 salles des classes qui sont touchées, à la communauté qui nous écoute, on puisse nous venir en aide et surtout que nous vivons la période de gratuité et on ne peut rien faire.
Selon cette autorité, l'urgence serait de construire un mur de soutènement derrière cette école pour barrer la voie à l'eau qui envahit les salles. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Okapi.
Actualité, Afrique Monde.
Des Rwandais se sont recueillis hier devant les dépouilles de leurs proches, victimes des inondations et glissements de terrain dans les provinces du Nord, de l'Ouest et du Sud, provoquées par les pluies torrentielles. Le dernier bilan du gouvernement est de 130 morts et 77 blessés. Plus de 5000 maisons ont été détruites, faisant des milliers de sans-abri, bilan encore provisoire. Et par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.